L'EM. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi, rediffusée à 18h. Encore un nom charmant pour un projet de recherche, le projet Mignon. Mais en creusant, ça va peut-être vous paraître moins sexy. Il est question de moisies, d'aliments qui se dégradent, de verdures louches qui poussent sur le pâté, de taches blanches dans la confiture, que sais-je encore. Mais de ces moisissures, les chercheurs ont fait un projet qui est aussi participatif et qui va vous interpeller. En plus, c'est pour la bonne cause, contre le gaspillage des aliments. Avec nous pour discuter de ce projet Mignon, deux chercheuses de l'Université de Bretagne-Ouest, il y a la professeure Monica Coton, coordinatrice du projet pour le laboratoire LUBEM, Biodiversité, Écologie, Microbiologie, et la docteure Kimberly Gérardon, ingénieure de recherche pour le laboratoire LEGO, Économie, Gestion de l'Ouest. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce projet s'appelle Mignon ? Alors c'est M-Y-N-I-O-N. Quels sont les domaines de recherche qui sont concernés ? Alors je ne sais pas, Monica.
On a bien baptisé le projet Mignon. Ça signifie Mycotoxin Migration en anglais, ou la migration des mycotoxines dans le cas des aliments justement qui peuvent être moisis. Voilà l'apparition du nom Mignon.
Bien trouvé.
Oui. Et puis après, ça implique en fait plusieurs équipes de recherche. Donc, c'est vraiment multidisciplinaire. Donc, on a effectivement le LEGO qui va étudier vraiment le comportement des consommateurs, qui gère tout ce qui est science participative pour ce projet. Et puis, on a deux équipes qui sont plus spécialisées en microbiologie ou en sécurité des aliments, qui est l'UBEM, donc sur Brest. Ou à plus années. Et puis l'autre équipe est à l'UEMER Cali-Sud à Montpellier.
Ah oui, pourquoi Montpellier ? Ils ont des spécialistes là-bas.
C'est qu'on a un petit historique de travailler avec Montpellier depuis pas mal d'années, et notamment sur le sujet des aliments moisis et pour essayer de comprendre quelles sont les moisissures qui posent problème et qui pourraient potentiellement produire des mycotoxines, et ces mycotoxines qui migrent dans le cas des aliments. En fait, on a même travaillé sur un autre projet en amont de Mignon. C'était avec l'ANSES qui a fait le financement.
Agence de sécurité et de santé, c'est ça ?
Oui, c'est
Je
ne
sais jamais le logo.
Qui gère tout ce qui est sécurité des aliments en France, effectivement. Et donc, ils avaient financé un premier projet avec nos deux équipes pour étudier déjà un petit peu ce phénomène de migration des mycotoxines dans le cas des aliments moisis.
Alors, je me rends compte qu'il faut que vous nous fassiez un portrait des mycotoxines. Alors, c'est myco, on entend champignon, c'est ça, mais c'est peut-être plus compliqué que ça. Enfin, allez-y, expliquez-nous.
Les mycotoxines, en fait, ça va être des métabolites ou des composés spécialisés qu'on appelle aussi des métabolites secondaires qui sont produits par des champignons. Donc, ça va nécessiter des conditions spécifiques. Des fois, il faut une condition peut-être un peu stressante ou un peu de compétition, donc en présence de d'autres micro-organismes. Et les champignons vont venir donc produire ces composés-là, certainement pour les aider aussi à bien rester dans leur niche écologique à la base. Par contre, ces métabolites spécialisés ou des mycotoxines, pour le consommateur, peuvent des fois poser des petits problèmes parce qu'il peut avoir un certain niveau de toxicité du fait du type de molécule que c'est, de leur structure chimique, etc. Et c'est ça aussi qu'on évalue un peu dans le cadre du projet.
Et dans le projet, ça s'intéresse que à ces champignons, enfin ces toxines de champignons, et pas à des bactéries, enfin pas à d'autres micro-organismes qui pourraient être délétères. Enfin, ça ferait trop.
Non, en fait, tout ce qui va être, par exemple, bactéries pathogènes, donc on n'étudie pas du tout ça. Et je dirais même de manière plus générale, en fait, tout ce qui va être produit alimentaire qui a une date limite de consommation, ça veut dire qu'il y a un risque microbiologique. Donc, tous ces aliments-là sont écartés du projet. Parce que c'est comme ils ont une date limite de consommation, il faut respecter cette date. Par contre, tous les produits qui ont une date de durabilité minimale, bah, ces produits-là peuvent être des fois sujets aux contaminations par les moisissures. Et c'est ces produits-là qu'on étudie, comme les fruits et légumes, comme aussi des produits, par exemple, faits maison, comme un gâteau ou quelque chose comme ça.
Donc, ce qu'on appelle la DLUO, c'est ça, la date limite d'usage optimal
Oui, qui est devenue la DDM, donc ah oui, date pardon, de durabilité minimale.
D'accord, mais ce n'est pas très clair, je trouve, date de durabilité minimale. Je pense que, enfin, est-ce que les... Ça, c'est vous, Kimberley, qui allez nous dire si les gens comprennent ce terme, mais...
Alors, on n'a pas forcément encore mené d'études là-dessus. Ça serait intéressant de le faire aussi.
Sur le vocabulaire employé, quoi.
Oui. Nous, c'est vrai que ouais, on se limite à la DLC, qui est déjà quelque chose de pas forcément, enfin, qui nous parle pas forcément tout de suite. Donc voilà, on va voir si les, justement, avec le questionnaire, on en parlera plus tard.
Bien sûr.
Si c'est compris et si c'est respecté par le consommateur.
Et pour en revenir au portrait des mycotoxines, il y en a. Enfin, vous avez une idée de combien il y a de mycotoxines qui concernent les aliments
Déjà au niveau des moisissures, hein, donc il y a toutes sortes de moisissures qui sont capables de produire ces mycotoxines. Donc il y a plus de 400 mycotoxines recensées à ce jour.
Donc c'est pas tant que ça finalement. Enfin c'est beaucoup, mais.
Ouais. Après, dans l'échelle alimentaire, donc on va avoir déjà un certain nombre de moisissures, disons une dizaine, qui sont surveillées. Donc ils ont déjà une réglementation. Ça peut aller du champ jusqu'à au moment où le produit est fabriqué. Et donc, en fait, là, on peut surveiller en fait, ces aliments à ce niveau-là. Donc, voilà, pour les plus problématiques, c'est déjà quelque chose qu'on va regarder.
Il y en a qui sont connus
Oui, bien sûr.
Le botulisme, par exemple, c'est une mycotoxine ou pas?
Non, là, on est sur... Là, ça va être autre chose. Hein. Donc, là, on est vraiment sur le problématique de mycotoxine. Ça va être des molécules de type aflatoxine, l'ocratoxine A, la patuline. Donc, je ne sais pas si ces noms...
Moins connu, mais quand même. Alphatoxine, si, ça me dit quelque chose.
D'accord. Donc, OK. Voilà, donc les pires, disons, mycotoxines qui sont les plus étudiées de manière générale pour leur toxicité sont déjà surveillées dans la chaîne alimentaire. Par contre, cette surveillance ne peut pas être réalisée chez le consommateur. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est que quand l'aliment moisit chez soi, donc à la maison, au frigo, que sais-je, c'est ça qu'on veut étudier. On veut regarder quelles sont les moisissures qui finalement contaminent les aliments chez nous. Et s'ils contaminent les aliments, est-ce que ces moisissures sont à risque? Et est-ce que chez nous, ils vont produire aussi des mycotoxines? Et si oui, lesquelles? Et tous ces résultats-là, petit à petit, on va les récolter. Et on veut surtout regarder est-ce qu'il y a un risque associé à la production potentiellement de ces mycotoxines dans le cas des aliments pour qu'à la fin du projet, on puisse dire aux consommateurs ce qu'il faut faire s'ils sont face à un aliment moisi chez eux. Donc j'avance un petit peu peut-être le sujet. Mais...
Oui, tout à fait. Vous commencez à nous expliquer en quoi consiste le projet, c'est ça. Donc vous pouvez développer ou Kimberley, votre partie à vous, par exemple, en quoi ça consiste alors?
Alors nous, on va être sur, comme on l'a expliqué, un laboratoire qui étudie les comportements du consommateur. Donc notre objectif, nous, c'est vraiment de voir les pratiques des consommateurs chez eux vis-à-vis de l'aliment moisi qu'ils pourraient rencontrer. Et tout l'intérêt, en fait, ça va être de combiner avec les recherches du LUBEM s'il y a des pratiques à risque en face à un aliment qui pourrait justement présenter des mycotoxines. Donc voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je gratte la partie en surface? Est-ce que c'est dangereux pour moi ou pas? Est-ce que je coupe une partie? Est-ce que je jette tout le produit? Voilà, tout ça, ça va être des questions qui vont nous intéresser, en fait.
Et vous êtes comportementaliste? Enfin, c'est quoi votre spécialité?
Oui, c'est ça, concrètement, oui. C'est, le comportement du consommateur, il analyse tout le processus décisionnel du consommateur, que ce soit pour choisir un produit, pour sélectionner tel ou tel type de service ou des pratiques. Nous, on est vraiment spécialisés, hein, on a un axe au laboratoire Lego, un axe pratique durable et alimentation durable. C'est tout l'intérêt de voir un petit peu comment se comporte le consommateur sur ces questions-là.
Et donc, l'objectif du projet, je l'ai un peu dit, vous l'avez un peu dit, c'est lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est ça enfin...
Oui, mais tout en assurant la sécurité des consommateurs.
Oui.
Ça, c'est...
Oui.
Voilà, et on veut lutter contre le gaspillage, mais en même temps, il faut assurer la sécurité. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette approche multidisciplinaire qui va vraiment du comportement des consommateurs via cette étude de sciences participatives. On récolte des aliments moisis petit à petit, on les étudie. on fait des études sur la migration des mycotoxines. Et on a même une collègue au LUBEM qui est toxicologue et elle va étudier aussi la toxicité réelle que pourraient poser les mycotoxines qu'on rencontre dans le cas des aliments.
Alors, racontez-nous de A à Z le projet. Comment est-ce que vous procédez? Qu'est-ce que vous demandez aux gens Girardon.
Concrètement, c'est tout simple. Donc là, on fait un peu de communication sur les médias locaux, mais bon, on cherche sur la France entière aussi, il faudra le préciser par la suite. Le but, c'est de recruter des participants, des foyers, des ménages français qui pensent pouvoir nous envoyer un petit échantillon d'un produit moisi qu'ils peuvent découvrir dans le frigo, dans la cave, dans leur placard. Ils peuvent s'inscrire via notre site internet. Il suffit de taper dans la recherche Google, par exemple, « Projet mignon ». M-Y-N-I-O-N, se rendre sur le site. Donc, on a un onglet « Je participe à l'étude ». On remplit quelques informations qui nous seront utiles pour envoyer tout simplement un kit de prélèvement. Donc voilà, ils vont pouvoir jouer un petit peu aux scientifiques.
Eh oui, c'est voilà. Ça qui est amusant aussi.
Ouais, c'est ça. Donc ensuite, une fois qu'ils ont identifié leur produit, donc ils nous renvoient le petit échantillon. Donc tout est gratuit. On a une enveloppe T pour assurer le retour. Donc on dispatche en fonction de l'endroit où se trouve la personne. Donc si c'est plutôt dans le nord de la France, c'est donc le LUBEM et Monica qui réceptionnent les échantillons. Et pour la partie sud, donc on est sur Sabine Galindo qui fait partie de l'UMR Cali Sud, qui réceptionne avec son équipe, bien entendu, qu'il y a derrière. Et puis en parallèle, donc, une fois qu'on a ce petit échantillon, on demande aux participants de remplir un petit questionnaire en ligne sur les pratiques, en fait. Qu'est-ce qu'ils font concrètement avec cet aliment? Est-ce qu'ils le jettent? Est-ce qu'ils mangent une partie? Qu'est-ce qu'ils font en général avec ces produits moisis?
Et vous leur demandez quand même quelles ont été les conditions de conservation de l'aliment aussi.
Oui, il y a plein de questions sur la conservation, dans quel environnement ils l'ont trouvé, depuis quand est-ce que cet aliment est dans le frigo, le placard, où est-ce qu'ils l'ont acheté? Est-ce que c'est un produit maison? Est-ce que c'est un produit acheté dans le commerce ou même un cadeau, une confiture maison de la grand-mère?
Oui, parce que ça arrive souvent, il faut bien être honnête.
Et donc tout ça, ça intéresse justement Monica et son équipe.
Les participants doivent envoyer un seul échantillon ou est-ce que ça vous intéresse qu'ils en envoient plusieurs
Oui, alors c'est ça, on a eu déjà le cas. J'ai eu des retours de personnes qui ont déjà participé et qui m'ont demandé, j'aimerais renvoyer un échantillon. Donc c'est très simple, il suffit juste de recompléter le petit questionnaire avec les informations, l'adresse pour leur envoyer l'échantillon. Et ils reçoivent un nouvel échantillon. Et le processus est le même.
Ah oui, ils ne peuvent pas en envoyer plusieurs en même temps
Non, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, par exemple, si c'est un citron et puis après qu'ils reçoivent, qu'ils veulent nous envoyer du pain, on n'aura pas les mêmes comportements. Donc nous, tout le processus derrière, on veut l'analyser. Donc il faut répondre de nouveau au questionnaire et voilà.
Et le kit, alors c'est peut-être vous, Monica, à quoi il ressemble? Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien faire son prélèvement?
Donc au niveau du kit, donc on a même fait des petits essais avec le Lego en amont. Comme ça, on avait des scientifiques et puis, d'un point de vue microbiologique et puis aussi des gens qui étaient scientifiques, mais plus comportement. Et on a mis en place un petit système où ils ont une boîte de pétri. Ils ont un petit bout de paraffine.
C'est quoi? C'est cylindrique, une boîte de pétri, c'est ça? C'est transparent et cylindrique?
C'est une petite boîte rond, transparent. Donc, on va l'ouvrir. Les gens vont prendre un couteau qui est bien propre. Ils vont venir enlever le petit bout de l'aliment qui moisit. On voit vraiment la moisissure qui est visible. C'est ça le but.
On ne met pas le citron en entier, quoi.
Non.
Même s'il est tout moisi.
C'est ça.
Juste un morceau suffira.
Exactement. Ça va être très, très simple à isoler la moisissure normalement derrière. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup, en fait. Et donc, ils vont mettre ça dans la boîte, on fournit donc la paraffine pour bien la fermer, et comme ça il n'y a pas de fuite au cas où c'est,
c'est important.
Chose de un peu juteux, si c'est un fruit légume, voire même la confiture pour pas qu'il y ait des problèmes avec l'enveloppe. Et donc après c'est mis juste dans l'enveloppe de retour et puis c'est renvoyé dans les deux laboratoires en France. Et après, nous, on va réceptionner les échantillons. Donc, à l'arrivée, on va vérifier que la personne avait rempli le questionnaire. On va valider les codes pour bien que tout soit conforme, en fait, par rapport à ce qui est attendu pour chaque produit. Et puis là, le processus de mycologiste va se mettre en place où, en fait, on va utiliser différentes méthodes pour pouvoir isoler les moisissures qui se trouvent, en fait, sur la surface, en fait, de ces aliments-là.
Oui, c'est ça la difficulté, c'est d'isoler le...
Donc on a différentes techniques qu'on utilise au laboratoire. Soit on fait des petites dilutions pour essayer de décrocher les spores de moisissure de l'aliment, ou sinon on fait des ensemencements directs sur différents types de milieux de culture. Et ça aussi, on fonctionne du type de produit, hein, parce qu'il peut y avoir des produits qui ont très peu d'eau. Hein, donc, on va travailler avec des milieux de culture hein, où on va abaisser un peu la quantité d'eau dans le milieu par rapport à d'autres, où au contraire, on a quelque chose d'un peu plus riche. Et ça va favoriser, en fait, l'isolement des moisissures. Mm-hmm. Et puis, une fois qu'on commence à les observer sur boîte pétri, on va les purifier. Comme ça, on est sûr qu'il y a un seul moisissure de présence sur la boîte pétri.
Oui, parce qu'il pourrait y en avoir plusieurs, quoi.
Ça peut arriver. Oui, d'accord. Okay. De manière... c'est pas peut-être le cas le plus fréquent. Souvent, on va voir un moisissure qui contamine un aliment, mais de temps en temps, il peut y avoir plusieurs. Je pense que ça dépend de peut-être l'âge et pour combien de temps voilà, le produit est stocké, potentiellement au frigo ou sur un comptoir, etc. Et voilà, une fois qu'on a notre moisissure, on va aller extraire son ADN, hein, donc vraiment l'information génétique qui va nous permettre ensuite d'identifier et de mettre un nom aux moisissures et de savoir vraiment qui c'est.
Mais vous n'allez pas faire de découverte, a priori. Enfin,
on ne sait jamais.
Ah ouais, peut-être.
On ne sait jamais. On peut tomber de temps en temps sur une nouvelle espèce qui n'est peut-être pas encore décrite. C'est les travaux au Liban. Hein, récemment, on a travaillé avec du fromage, hein, des fromages de partout en France. Et on a fait une petite campagne d'isolement. On a quand même décrit 4 nouvelles espèces. Donc, ça arrive de temps en temps.
Je le dis toujours, vive le fromage. Parce que là, c'est des bonnes moisissures en général. Enfin, est-ce qu'il y a des mauvaises moisissures dans le fromage? Est-ce qu'il y a des toxines, mycotoxines dangereuses?
Après, on va utiliser certaines moisissures, clairement, pour la production, pour la fabrication des fromages, comme
Roquefort.
Par exemple, Penicillium roqueforti, ou encore Penicillium camemberti, comme le nom indique, hein, pour du camembert ou du brie, ce genre de fromage. Donc, c'est vraiment des moisissures d'intérêt technologique. Et
qui s'appelle d'ailleurs Penicillium, comme la pénicilline, antibiotique
ouais,
bien connu.
Ouais. Donc, ils sont très positifs. Et donc, on les recherche, on les utilise tous les jours hein, pour fabriquer de nombreux produits fermentés, dont les fromages. Après, par contre, on peut avoir d'autres moisissures qui viennent et qui contaminent en fait un aliment. Et des fois, ça peut être des moisissures qui produisent des mycotoxines et des mycotoxines qui pourraient potentiellement avoir un certain niveau de toxicité qui pose un risque pour le consommateur si jamais on consommait des quantités importantes.
Ouais. C'est quoi les risques d'ailleurs des mycotoxines? Enfin, j'imagine que c'est très variable selon les...
Exactement. Donc les mycotoxines, ils sont déjà c'est des structures chimiques assez variées selon la famille de mycotoxines que c'est ou le type de mycotoxines que c'est. Certaines sont connues extrêmement toxiques comme les aflatoxines B1 en particulier. Donc, il peut avoir des impacts cancérigènes, mais disons à plus long terme.
Ah, c'est ce qu'il y a dans les noix, enfin, les noix moisies, c'est ça, enfin, les
amandes. Ça peut arriver, effectivement,
amandes,
ou des cacahuètes,
ah,
ce
oui,
genre
cacahuètes,
de,
voilà,
de
oui.
produits. Mm-hmm. Après, il faut quand même rassurer les personnes hein, en Europe et en France. On a quand même toute une surveillance de la chaîne alimentaire, donc ça va faire partie des mycotoxines qui sont réglementées, donc on va les rechercher. Et donc les produits mis sur le marché, on ne devrait plus avoir de présence d'aflatoxines, par exemple. Par contre, notre projet, encore une fois, nous on étudie la phase où l'aliment est moisi chez nous. Et pour ça, il n'y a pas de réglementation, on ne peut que donner des recommandations. Et c'est vraiment ça qu'on veut faire et qu'on vise à faire dans le cadre de ce projet.
Et avant même pour terminer avec les phases de calendrier, donc là,
oui.
Une analyse, ça vous prend combien de temps une fois que vous avez reçu un échantillon
Ouais, donc en fait, les moisissures, ils ont un développement beaucoup plus ralenti que par exemple une bactérie. Donc typiquement, hein, quand on va commencer à faire l'isolement sur un milieu de culture, on va incuber minimum une semaine. Pour bien visualiser, en fait, qui est là. Et souvent, on passe par une phase de purification ou de repiquage. Donc, on va ajouter à nouveau une semaine avant de pouvoir aller vers l'identification, donc l'extraction de l'ADN et la partie dite séquençage. On va aller amplifier de manière exponentielle l'ADN pour pouvoir ensuite donner un nom. Et donc, cette phase-là, ça va durer à nouveau... disons 2 semaines parce qu'on fait appel à un prestataire de service pour faire le séquençage et puis nous on fait l'analyse bioinformatique qui arrive derrière.
Ah oui, donc c'est quand même assez long. Et vous Kimberly, vos données, comment est-ce que vous les exploitez
Alors pour le moment nous on n'a pas forcément l'ensemble des données, en fait on doit attendre de récolter l'ensemble de l'échantillon que nous avons visé, donc c'est-à-dire qu'on vise 700 envois, dont 500 échantillons, donc c'est-à-dire 500 questionnaires, 500 participants. Une fois que nous réceptionnons la totalité des questionnaires, on va faire des analyses statistiques, hein, tout simplement, pour voir qu'est-ce qui est le plus fréquent, quels sont les produits avec des pratiques plus ou moins à risque. Et puis, en parallèle, on va commencer début juin, à mener des entretiens chez les participants, tout simplement, qui ont accepté en fait, de nous recevoir. Et donc, on va voir un petit peu plus en
détail.
Même
quand ils habitent loin, vous y allez?
Non, alors malheureusement...
Ça peut être par Zoom, quoi.
Non, alors malheureusement, on va se cantonner là, on va être un peu régionaliste, on va rester sur la Bretagne. Et donc voilà, on va interroger une trentaine de participants pour voir un petit peu comment ça se passe chez eux quand ils ont un aliment moisi.
Mais le recrutement est toujours ouvert, hein, je lance bien l'appel. Oui. Jusqu'à quand on peut s'inscrire sur...
Ça peut continuer encore quelques mois, le temps qu'on éteint justement les 700 aliments qu'on vise. Il y aura une demande actuellement qui est forte pour recevoir plein d'échantillons. Et je pense qu'à l'automne, on va continuer encore à demander aux consommateurs de nous envoyer les produits. Ce qui va peut-être aussi diversifier un peu les produits selon les saisons de l'année.
Ben oui, c'est ça, c'est l'intérêt aussi. Oui,
tout à fait. Ouais. Et donc, je pense que voilà, fin de l'automne, début l'hiver, on va terminer en fait cette phase de sciences participatives pour ensuite aller dans les prochaines phases du projet.
Et qu'est-ce qu'il vous faudrait dans l'idéal, les 700 aliments, c'est quoi? Dans quel coin de France aussi peut-être?
Alors, partout.
Et on essaye de cibler un petit peu plus le sud parce que c'est vrai que justement la Bretagne, on a été quand même assez, pas inondée, mais...
Est-ce que c'est parce que nous sommes une région humide et que ça moisit plus, ça serait ça ou...
La question se pose.
Ouais. Oui,
peut-être, d'accord.
Non, plutôt essayer d'étaler un peu sur le sud de la France. Bien entendu, on est quand même ouvert à réceptionner toujours en Bretagne. Hein, y a pas
bien
de...
sûr.
Toutes les régions sont les bienvenues.
Et en termes de produits, de type de produits
Alors justement, on a eu une réunion hier un petit peu sur l'avancement de toute cette étude. On a remarqué qu'on a beaucoup de fruits et légumes actuellement. Ouais. Donc voilà, on a plusieurs autres catégories qui nous intéressent. Hein, le pain et les produits boulangers. La charcuterie sèche, pardon. C'est vrai que là, on a un petit peu moins. Donc, voilà.
C'est quoi les saucissons? C'est quoi la charcuterie sèche?
Oui, c'est tout à fait ça. Ça peut être type saucisson, des salamis. Ou justement, ce n'est pas la moisissure technologique utilisée pour la fabrication. Mais plus un contaminant qui arrive plus tard et qu'on voit bien visible en surface. Ce genre d'échantillon, clairement, nous intéresse.
Mais ça doit être plus rare, ça, non, à trouver, justement. Enfin, c'est pas un hasard si vous en avez moins, je pense, non?
Peut-être,
oui.
Par rapport aux fruits et légumes, oui, je pense qu'il y a certains produits qui sont sujets aux moisissures et qui moisissent assez rapidement, alors que d'autres, il faut les avoir un peu plus longtemps chez soi avant que ça moisisse.
Ouais. Et quoi d'autre encore qui...
Alors, on a les produits laitiers aussi. Hors fromage et de l'autre côté justement les fromages aussi.
Ah quand même.
Oui. Ouais.
Mais là c'est pas facile parce que comment est-ce qu'on peut distinguer la moisissure naturelle du fromage et une moisissure qu'on considère comme pas naturelle.
Un fromage à pâte persillée, hein, c'est très visible, Pennsylvania Roqueforti qui va venir bien colorer les veines.
Mais celui-là, on ne va pas vous l'envoyer.
Et donc ça ne nous intéresse pas, effectivement. Ouais. Par contre, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est des fromages de type pâte pressée, où justement, là, en surface, des fois, on a une petite contamination.
Donc du comté, des choses comme ça.
Oui, ça peut être du style comté, toute cette catégorie de fromages-là, pâte pressée, effectivement. Et des fois, on va voir en surface d'abord, souvent, une apparition d'un petit aspect velours un peu blanchâtre et qui va verdir ou devenir un peu bleu. Et souvent, ça, c'est des contaminants en fait, qui arrivent
post-production. Ah, c'est pas une deuxième croûte. Ils ne sont pas en train de refaire leur croûte, ceux-là.
Ouais. Ouais, ça, c'est plus un contaminant post-production.
Et de toute manière, c'est vrai que sur le site, et même quand le participant commande un kit, il reçoit un petit guide d'accompagnement où justement, on précise un petit peu les différents indices qui peuvent aiguiller sur la piste de la moisissure.
Mm-hmm.
Donc, l'aspect poudreux, filamenteux...
C'est ça.
Poilu.
Ouais. Poilu. Plus c'est poilu, mieux c'est alors.
Okay. Et coloré.
Et coloré, d'accord. Quand c'est blanc, c'est pas... On peut le manger.
C'est juste que des fois, quand c'est blanc, soit ça dépend des espèces. Par exemple, Penicillium camemberti, c'est vraiment une très, très jolie couleur blanc. Hein, ça, c'est sûr, au niveau de moisissure. Mais d'autres, c'est juste que dans des phases plus jeunes, ils vont être plutôt blanches et après, ils vont sporuler. Donc, les conidies, en fait, vont venir colorer, en fait, le mycélium. Et donc, ça va devenir plus bleu vert, jaune, que sais-je. Hein, donc,
Et au final, donc, vos résultats, ça sera, voilà, les gens conservent mal ou pas, enfin, qu'est-ce que vous allez raconter? Ouais, enfin, vous pouvez pas savoir à l'avance, mais en gros.
C'est pas vraiment les gens qui conservent mal, c'est juste, je pense, il y a certains produits, voilà, c'est des produits qui sont conservés un peu plus longtemps chez soi, et puis, bah, je pense que tout le monde sait, hein, bah, les moisissures, on va les rencontrer un peu partout, les spores se dispersent dans l'air, il suffit qu'il y ait un spore dans l'air qui tombe, entre guillemets, en surface de l'aliment, bah, là, le spore peut germer, et puis après, on a la moisissure qui se développe, donc...
Mais je suis pas sûre qu'on y pense à ça, justement, c'est intéressant de dire que les spores se promènent autour de nous. Je pense qu'on n'y pense pas.
Ouais, bah c'est vrai que dans l'air, naturellement, il y a pas mal hein, de spores, voilà, ou dans des gouttelettes d'eau, etc. Ça, c'est des moyens assez classiques de dispersion de spores, de moisissures. Ils vont venir voilà, tomber en surface de quelque chose et c'est là où ils commencent à se développer si les conditions sont propices.
Et en plus de l'aspect participatif, donc quelque part éducatif, il y aura des applications, j'imagine, pour l'industrie agroalimentaire ou non
C'est vrai que ça, c'est des phases hein, qu'on compte faire dans la dernière année. Donc, on est dans les premiers 6 mois. Donc, le projet qui dure 4 ans. Donc, selon les résultats, donc on a différents moyens de communication qu'on souhaite faire. Donc, différents événements avec le grand public, comme la Nuit des chercheurs, par exemple. C'est peut-être un moyen intéressant, surtout sur Brest, hein, qu'on participe activement à ça chaque année.
C'est en octobre, c'est ça?
Voilà, fin septembre.
Oui,
ou
en automne,
octobre,
quoi.
Ouais, ouais. C'est ça. Après, on a également peut-être un travail qu'on va réaliser avec l'ANSES où on va travailler sur les fiches de danger de moisissures et des mycotoxines. Donc, ça peut être aussi un moyen intéressant de diffuser certaines recommandations. Avec les entreprises, ça peut aussi de discuter de peut-être certaines pratiques. Ça peut être aussi par rapport à l'étiquetage d'aliments, etc. Mais... Là, pour le moment, voilà, c'est un peu tôt pour pouvoir en dire beaucoup plus parce que ça dépend aussi des résultats, les recommandations qu'on va déterminer, etc., grâce aux différents volets du projet.
Eh bien, vous reviendrez donc quand vous aurez plus avancé.
Avec plaisir.
Après la collecte. Merci beaucoup à toutes les deux.
Merci.
Merci beaucoup.